Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Et dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la présence des casques bleus en République démocratique du Congo. Car l'avenir de la MONUSCO se joue en ce moment au Conseil de sécurité de l'ONU. Demain, une résolution sera soumise au vote sur le renouvellement de la plus importante mission des Nations Unies. En tout cas, les autorités congolaises réclament un départ des casques bleus. Elles affirment que l'autorité de l'État s'exerce désormais sur la quasi-totalité du pays, alors que le patron des casques bleus, le patron de la MONUSCO, plaide pour un retrait progressif. Il estime que la situation sécuritaire reste instable dans l'est du pays. Alors quel avenir pour les 20 000 casques bleus en République démocratique du Congo? D'ailleurs, quel bilan dressez-vous de l'action de la MONUSCO? Vous nous rejoignez, vos commentaires et vos témoignages, vous qui êtes sur le terrain, évidemment, nous intéressent. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous souhaitez nous contacter depuis la France, et vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Quelques 300 réactions, la page officielle RFI appelle sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux, des sujets que vous pouvez également consulter à tout moment sur le site RFI.fr. On va d'abord s'intéresser aux relations, on peut le dire, tendues, extrêmement tendues, entre l'administration Obama et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Bonjour Alpha.
Oui, alors bonjour, bonjour à tout le monde.
Vous êtes à Conakry, on vous écoute.
Ok. D'abord, je présente mes condoléances à toutes les familles de victimes de l'accident.
Ok. De l'accident, du crash aérien.
Oui, du crash aérien.
D'accord.
Intervenir. Ok, j'ai appris sur RFI que le gouvernement américain menace de réévaluer leur soutien au gouvernement israélien. Maintenant, je veux savoir, c'est de quelle façon Obama envisage-t-il de réévaluer les relations avec Israël? Et quel impact ça aura sur les relations entre les deux pays?
Alors ça, c'est effectivement une bonne question. C'est vrai que la Maison Blanche a été très claire. Elle a dit que l'administration Obama n'aurait certainement pas d'autre choix que de réévaluer sa position à l'ONU concernant Israël. On va essayer d'y voir plus clair, évidemment, avec Thomas Negaroff. Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour Juan.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions géopolitiques et spécialiste surtout des États-Unis. On sait que les relations entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama ont toujours été tendues, mais dans la dernière ligne droite de la campagne électorale en Israël, Benjamin Netanyahou a radicalisé son discours. Il a promis qu'il allait poursuivre les constructions dans les colonies, et il a surtout promis qu'en cas de victoire, il s'opposerait à la création d'un État palestinien, ce qui a braqué la Maison Blanche.
Oui, parce qu'on sait que c'est la position diplomatique traditionnelle de Washington qui, depuis toujours, en fait, défend l'idée d'une solution à deux États, un État palestinien et un État israélien, les deux dans leur sécurité, y compris et notamment Israël. Il y a eu aussi dans la dernière semaine de la campagne, vous savez, ce déplacement, enfin un tout petit peu avant, de Netanyahou aux États-Unis, au Congrès, où il avait attaqué très durement la politique étrangère américaine au sujet du nucléaire iranien. Donc il y a effectivement une ambiance extrêmement tendue qui, avec la victoire de Netanyahou, effectivement créer les conditions de tension, même si depuis quelques jours que Netanyahou a mis un peu d'eau dans son vin.
Effectivement.
On sait qu'il a vraiment besoin des États-Unis. Il a dit que c'était des propos de campagne, c'est allé un petit peu loin. Même Barack Obama a aussi essayé d'aplanir un peu tout cela. L'enjeu, il est effectivement à l'ONU, vous avez raison. La possibilité d'action des États-Unis est impressionnante, puisque les États-Unis peuvent, s'ils le décident, demain accélérer une reconnaissance de l'État palestinien par l'ONU, qui aurait des conséquences évidemment extrêmement importantes dans la région. Et puis il y a aussi la question financière, monétaire. Les États-Unis, vous savez, versent 3 milliards de dollars par an à Israël, essentiellement en termes d'aide militaire. Et ça, c'est aussi un dossier essentiel. Israël est en train d'essayer justement de négocier au-delà de 2017 une petite hausse à 3,2-3,4 milliards. Washington tire un peu vers le bas à 2,8 milliards. Ça reste des sommes énormes. Mais on voit que ça se joue à plein de niveaux, que c'est l'évolution de cette relation entre les deux pays.
Alors effectivement, Benjamin Netanyahou a fait marche arrière. Il est revenu sur ce rejet du principe d'un État palestinien, ce qui n'a pas convaincu malgré tout la Maison-Blanche, hein, puisque le chef de cabinet de la Maison-Blanche a estimé que cette rétractation de Netanyahou ne suffisait pas. On peut s'attendre à ce que Washington menace clairement de ne plus soutenir systématiquement, ou en tout cas bloquer systématiquement les résolutions qui sont défavorables à Israël ?
Alors c'est extrêmement difficile à envisager tout de même, dans la mesure où, et on se souvient notamment de la visite de Netanyahou au Congrès, le Congrès est quand même largement favorable à une position pro-israélienne aux États-Unis, par les États-Unis, pardon. Donc ça serait difficile pour Obama, qui cherche par ailleurs à terminer correctement son mandat, de braquer le Congrès sur cette question qui est quand même extrêmement sensible aux États-Unis. Faut pas non plus oublier que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. George Bush père avait gelé à un moment donné l'aide économique à Israël en 1990, après la relance de la construction de logements dans les colonies. Donc c'est pas nouveau. Il y a des périodes de tension. En général, elles s'apaisent assez vite. Mais le problème, c'est que Barack Obama, depuis le pauvre, hein, finalement, depuis qu'il a la Maison Blanche, il a toujours eu Netanyahou en face de lui. Mmh. Il a tenté de faire avancer la paix avec un moratoire sur la construction des colonies. Vous souvenez-vous, au tout début, en 2009, qui a échoué. Ensuite, Netanyahou lui-même s'est prononcé, et c'était une première dans l'histoire des relations entre les deux pays, en faveur d'un candidat à la présidentielle, et c'était Mitt Romney. Voilà, les relations sont quand même structurellement tendues entre les deux hommes. Reste à savoir effectivement si cette relation tendue entre les deux hommes peut basculer sur une évolution de l'option géopolitique américaine dans la zone. Et ça, c'est quand même pas, à mon avis, la perspective la plus évidente.
À suivre donc. Merci beaucoup, oui. Thomas Negarov, d'avoir été avec nous, spécialiste des États-Unis. Alpha, merci de votre fidélité. On vous souhaite évidemment une bonne journée à Conakry. 9h17 à Paris. On va s'intéresser maintenant à la pollution urbaine, notamment la pollution à Paris où après les appareils de chauffage domestique, eh bien c'est l'automobile qui est la principale responsable des émissions de polluants atmosphériques. Ces polluants, ce sont eux qui produisent ces brouillards. On a vu le résultat d'ailleurs ici même à Paris toute la semaine dernière, y compris lundi, jour où la circulation alternée a été mise en fonction. Serge Olivier, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Calavi, au Bénin, et vous avez des questions, oui, concernant justement cette pollution urbaine.
Oui Juan.
On vous écoute.
Ok. Bonjour Juan, bonjour les auditeurs du RFI. Le lundi passé, la mesure de circulation alternée prise par la mairie de Paris est entrée en vigueur. Cette mesure viserait à réduire l'émission des particules fines et donc la pollution de l'environnement. À ce propos, j'ai deux questions, Juan. La première question. Quelles sont ces particules fines et comment peuvent-elles lutter contre la pollution ?
Ah, les particules fines, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé sur notre antenne. Agnès Rouget du service science va nous expliquer ça le plus simplement possible. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bonjour Agnès Rouget.
Bonjour Juan.
Alors qu'est-ce que les particules fines ?
Alors ces particules fines sont une partie seulement des polluants issus de la combustion et en particulier des moteurs au diesel. Dans les gaz d'échappement, il y a aussi de l'ozone, des oxydes d'azote qui sont eux aussi émis par ces moteurs au diesel et que les véhicules soient équipés ou non d'ailleurs de peaux catalytiques. Ce sont donc les voitures, les camions et les autres camionnettes qui sont responsables de cette pollution horrible.
Ouais, alors Serge, Olivier parlait à l'instant de pollution environnementale. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces polluants sont très nocifs pour notre santé.
Oui, oui, et c'est même un très sérieux problème de santé publique. Depuis 2009, en France, pendant les pics de particules fines et ultra fines, d'oxyde d'azote, d'ozone, on constate une surmortalité. Et fin 2013, la pollution de l'air extérieur a été classée cancérogène, certain par le Centre international de recherche sur le cancer.
Et quand vous dites qu'il y a plusieurs polluants, ça signifie que les effets sont différents sur notre santé ?
Oui, mais évidemment, ça touche d'abord l'appareil respiratoire. Alors, les oxydes d'azote, ils pénètrent profondément dans les poumons, ils les rendent vulnérables aux microbes, donc aux infections. On peut ajouter que du point de vue environnemental, ils sont effectivement très redoutables parce que ce sont eux qui participent à l'effet de serre et qui sont la source principale des pluies acides qui sont responsables de la mort des forêts en Europe. En particulier.
Et concernant les particules fines, c'était aussi la question de Serge Olivier. Quelles peuvent être les conséquences ? Quelles sont les conséquences sur notre santé ?
Alors, ces particules fines provoquent des allergies, des affections variées, évidemment, des voies respiratoires et des cancers. On les distingue suivant leur taille. Il y a les plus grosses, hein, PM10, qui ont un diamètre de 2,5 à 10 microns. C'est-à-dire, pour se faire une idée, 10 microns, c'est un dixième du millimètre. C'est quand même très petit.
Et ça, ce sont les plus grosses.
Et ce sont les plus grosses, oui. Et les plus fines, elles, qu'on appelle les PM2,5, de taille inférieure à 2,5 microns. Évidemment, plus elles sont petites, plus elles vont pénétrer profondément dans l'appareil respiratoire, et les plus petites vont aller jusqu'aux bronchioles et aux alvéoles pulmonaires. Et d'ailleurs, ces particules sont soumises à la réglementation. Hein. Alors, l'Agence française de sécurité sanitaire et environnementale souligne dans un rapport leur influence sur la mortalité. Si les concentrations moyennes de particules très fines, ces PM2,5, suivaient la valeur guide de l'Organisation mondiale de la santé, donc de 10 microgrammes par mètre cube, on éviterait 3000 décès prématurés par an.
Ah oui, effectivement, c'est conséquent. Ouais. Serge Olivier, vous avez une autre question ?
Oui, oui, exact. Ma deuxième question, la voici. La mesure de la circulation alternée, en quoi consiste-t-elle ? Et comment peut-elle contribuer à réduire l'émission des particules fines qui polluent l'environnement à Paris ?
Alors, la circulation alternée, c'est très simple. On prend l'exemple de lundi dernier, le 23 mars, c'était un jour impair. Donc, seuls les véhicules qui portaient des plaques d'immatriculation se terminant par un chiffre impair avaient le droit de circuler. En revanche, si l'arrêté préfectoral avait été prolongé donc au lendemain, mardi 24, eh bien, ce sont les véhicules avec des plaques paires qui auraient été autorisés à rouler. Voilà, bon, pour le concept, le principe même de la circulation alternée. En revanche, effectivement, la deuxième question de Serge est intéressante. Cette mesure, Elle est efficace ou pas? Elle a fait ses preuves ou pas, Agnès?
Évidemment, sur le court terme, elle est efficace. Elle fait baisser le taux de pollution. En 2014, on a eu le même genre d'épisode. Et Air Paris, l'observatoire de la qualité de l'air, a observé des résultats concluants. La concentration de ces PM10, les grosses particules fines donc, avait diminué de 6% et celle de dioxyde d'azote de 10%. Mais évidemment, à long terme, ça ne change rien. Et même sur le moment, en fait, cette mesure pourrait être améliorée. Parce que si l'on en revient aux véhicules qui polluent le plus, la plupart sont des véhicules anciens, qui roulent au diesel, ils peuvent très bien avoir des plaques d'immatriculation impaires, donc être autorisés à rouler, alors que des véhicules propres aux plaques paires n'en ont pas le droit.
Et les voitures électriques avaient évidemment une dérogation forcément, oui.
Alors Paris n'est pas la première capitale européenne à instaurer cette circulation alternée lors des pics de pollution. C'est une mesure qui existe de façon permanente à Athènes, par exemple, depuis 1982. Et à Londres, ils ont trouvé comme solution de mettre en place un péage urbain pour accéder au centre-ville. En fait, toutes les capitales européennes ont des plans anti-pollution.
Oui. En tout cas, les solutions pérennes, on les connaît. Il faut quoi ? Il faut développer les pistes cyclables.
Bien sûr, réduire la vitesse de façon régulière, favoriser les transports en commun, l'autopartage, les véhicules propres, et puis construire des parkings aux portes de la capitale, hein. Et puis aussi arrêter de fabriquer des véhicules au diesel et de jeter les vieux, hein, en quelque sorte. Bon, il y a plein de choses à faire.
À suivre. Merci beaucoup Agnès, venue donc répondre à Serge Olivier, Agnès Rouget du service science d'RFI. 9h23 à Paris, n'oubliez pas dans 20 minutes maintenant, notre débat sur l'avenir des casques bleus en République démocratique du Congo. Et on a d'ailleurs plusieurs questions sur la République démocratique du Congo, sur d'autres sujets qui animent l'actualité en ce moment dans ce pays. Léa Lisa Vestel et la correspondante d'RFI sur place. Bonjour Léa Lisa.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être en direct avec nous de Kinshasa. Moleka nous appelle de Durban, en Afrique du Sud. Bonjour Moleka.
Bonjour Juan, bonjour Radio Mondiale.
On vous écoute.
Je suis ici à RFI que le président Kabila a reçu une lettre de sa famille politique qui fait polémique. Alors j'ai trois petites questions. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a été dit dans cette lettre? Qui en sont auteurs et représente-t-il quel parti politique? Et enfin, pourquoi cette lettre est polémique?
Alors, c'est vrai que sept partis de la majorité présidentielle ont adressé une lettre au président Kabila, une lettre qui a laissé apparaître, Léa Lisa, des divergences, en tout cas des inquiétudes au sein de la coalition qui est au pouvoir. C'est une lettre qui, rappelons-le, a été adressée au chef de l'État au début du mois de mars. Hein.
Le 5 mars, exactement. Oui, vous le disiez, cette lettre fait part d'un certain nombre d'inquiétudes, hein, de la part de cette partie de la majorité. Et d'abord, par rapport à l'action du pouvoir après 15 ans d'exercice, les signataires disent craindre un certain essoufflement, je cite la lettre, un manque de vision et de force de proposition. Surtout après les protestations violentes, hein, pardon, contre la modification de la loi électorale en janvier dernier et sa gestion par le pouvoir, les signataires disent craindre, je cite encore, une coupure du contrat de confiance entre le pouvoir et le peuple. C'est donc une remise en question assez forte, hein, sans concession, qui figure dans cette lettre. Les signataires expliquent qu'il s'agissait de demander à Joseph Kabila de se prononcer, d'ouvrir un débat sur les questions importantes des derniers mois, les manifestations du mois de janvier, je le disais, mais aussi le calendrier des élections que beaucoup du côté de l'opposition, mais aussi de la majorité, critiquent déjà, ou encore le redécoupage du pays en 26 provinces, qui suscite des inquiétudes, hein, et des remous dans certaines parties du pays. En jeu aussi, la question délicate d'un candidat de la majorité pour la présidentielle. Joseph Kabila a toujours dit qu'il respecterait la Constitution, mais il n'a jamais dit qu'il quitterait le pouvoir en 2016. Certains, dans la majorité, aimeraient qu'il lève clairement le doute sur ses intentions. Bref, selon eux, la majorité est restée trop silencieuse ces derniers mois. Elle a laissé trop d'initiatives à l'opposition et elle n'a pas été en mesure de faire une offre politique crédible, je cite encore. Alors, les principaux partis de la majorité se sont réunis ce week-end, il faut le dire. Ils se sont parlé pour aplanir les différences et se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses, notamment la nécessité de se voir plus souvent. Il a été question du respect du calendrier électoral et du redécoupage des provinces, mais pas de la délicate question du candidat de la majorité à la prochaine présidentielle. On dit qu'il est trop tôt pour répondre encore à cette question.
Effectivement, et c'est ce que disait à votre micro ce matin le président de l'Assemblée nationale, interview à réécouter sur le site RFI.fr. Autre question, Bosco, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Radio du Monde.
Vous nous appelez de Kisangani, dans la province orientale de la République démocratique du Congo. Vous avez une question concernant Moïse Katumbi.
Évidemment Juan, vous savez, il y a peu de temps, ce qui vient de passer, nous avons subi certaines informations selon lesquelles le gouverneur du Katanga s'apprêtait à pouvoir se retirer de sa carrière politique. Et donc il voudrait démissionner en qualité de gouverneur. C'est ainsi que j'aimerais savoir quelles sont les raisons qui lui ont poussé à pouvoir démissionner. Et deuxièmement, qu'envisage-t-il de faire après ce retrait qu'il a
Et c'est d'ailleurs au micro de Léa Lisa Vesterov que le très populaire gouverneur du Katanga s'est expliqué effectivement sur sa volonté de se retirer pendant un moment de la vie politique. Léa Lisa Vesterov, qu'est-ce qui pousse le gouverneur du Katanga à ne pas briguer une fois de plus un mandat de gouverneur?
Alors, pourquoi il ne brigue pas un nouveau mandat de gouverneur? Il dit que ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, pourquoi il a quitté son poste de gouverneur actuel? En fait, la réponse est toute simple. Moïse Katumbi le quitte parce qu'il n'en a pas le choix. La loi sur le redécoupage du pays en 26 provinces a été promulguée il y a 3 semaines. Résultat, le Katanga va être divisé en 4 d'ici 3 mois. Normalement, 4 nouvelles assemblées provinciales vont être mises en place et 4 nouveaux gouverneurs vont être nommés. Résultat, de façon mécanique, Moïse Katumbi perd son poste de gouverneur à la tête de cette grande province puisqu'elle n'existera plus. Ce redécoupage était attendu depuis longtemps. Il avait été inscrit dans la Constitution en 2006, mais jamais mis en place. Le gouvernement a choisi de le faire maintenant.
Ouais, alors lui dit vouloir se reposer, faire le tour du Congo. En même temps, certains lui prêtent des ambitions présidentielles.
Oui, vous le dites, Moïse Katumbi reste très ambigu sur ses projets pour le moment. Il dit qu'il est trop tôt pour parler de 2016. Il répond, oui, comme vous le dites, qu'il veut faire une pause, qu'il veut se donner quelques mois pour réfléchir à ce qu'il compte faire ensuite. Il parle de faire un tour de toutes les provinces du Congo, mais refuse de qualifier ce voyage de campagne électorale. En bref, il laisse toutes les options ouvertes, celle de continuer en politique ou de se retirer définitivement. Pour le moment, il reste totalement ambigu sur la question et il maintient clairement le mystère sur ses ambitions. Ce sont beaucoup d'autres, des analystes, comme vous le disiez, qui pour le moment voient en lui un futur candidat à la présidentielle en 2016. Mais la question reste entièrement posée. Pour le moment.
D'autant que, rappelons-le, faut le signaler, il est membre du parti présidentiel, mais il a pris quand même ses distances en se prononçant contre un troisième mandat du président Joseph Kabila. Merci beaucoup, Léa Lisa Vesterov, d'avoir été avec nous. Bosco, merci de nous écouter à Kisangani. Je sais qu'on a des appels de Kisangani régulièrement dans cette émission. On vous remercie évidemment sur place de votre fidélité. On continuera à parler de la République démocratique du Congo dans 10 minutes et notamment des casques bleus. Quel avenir pour les 20 000 membres de la MONUSCO? On en parle juste après le journal.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et paiement mobile.